Chapitre 22. Une rencontre à l'arbre vert. Le surlendemain de ces terribles événements, au soir tombant, un homme, jeune encore, qui ne paraissait pas très bien portant, qui en tout cas était fort enchifrené, se présenta à l'auberge de l'arbre vert et demanda à Madame Muche les clés de la propriété des deux colombes qu'il voulait visiter et qui était à vendre, comme l'indiquait l'écriteau qu'il avait vu suspendu à la grille. Madame Muche lui donna les clés, et le jeune homme, enchifrené, s'éloigna, suivi du regard par un bonhomme qui était assis devant une table de la salle commune et qui avait été jusqu'alors fort occupé par la lecture du journal L'Époque, dont la première page semblait être faite toute de manchettes. Nous citons les principales. La poupée sanglante écrasée sous les débris de l'immeuble du boulevard Diderot. Démission de M. Bessières, directeur de la Sûreté Générale. Fantaisie criminelle de M. Lebouc, agent particulier de M. Bessières. Nous donnons maintenant le passage principal de l'article au-dessus duquel flamboyaient ces trois manchettes. Enfin, nous voici débarrassés de la poupée sanglante. Et aussi de M. Bessières, qui dans toute cette extraordinaire aventure s'est montré singulièrement au-dessous de sa tâche. On ne sait en vérité de quoi il nous faut le plus nous étonner, de son insuffisance ou de son inconscience. Avant d'avoir trouvé la poupée, il en épouvanta les populations. Il ne l'a pas plus tôt en main qu'il la relâche. Mais tout ceci n'est rien à côté de certaines manœuvres dont nous avons failli nous-mêmes être victimes et qui auraient pu avoir les répercussions les plus graves sur nos relations avec certaines puissances étrangères. On n'a pas oublié la publication ici même des articles signés XXX. Nous avions tout lieu de penser que la matière de ces articles avait été puisée aux sources les plus authentiques, et quand nous prêtions à ces révélations toute la force de notre publicité, nous croyions bien rendre au pays un service que nous n'avions pas à discuter. Ces articles nous étaient apportés, en effet, par un agent particulier de M. Bessières, qui nous laissait entendre qu'en les insérant, nous ferions plaisir au ministre. Cet agent, un certain M. Lebouc, l'alter ego de M. Bessières, était l'auteur de ces articles. Il en était non seulement l'auteur, comme on dit aujourd'hui, mais l'animateur. Toute l'histoire des Assouras de Corbillère, toutes ces aventures de Tugue où se trouvaient compromis les premiers noms de l'aristocratie européenne, tout cela était une invention de M. Lebouc. Poussé par qui, par quoi? Pour servir les intérêts de qui? Pour nuire à quoi? On vient de nous l'apprendre, mais nous n'en dirons pas plus long. Cette affaire, comme celle de la poupée, doit être enterrée. Assez parlé de Corbillère, n'est-ce pas, monsieur Lebouc? Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, paraît-il. Vous avez déjà été cassé trois fois dans des circonstances à peu près identiques, c'est-à-dire où l'intérêt public était en jeu. On a toujours vu agir, monsieur Lebouc, contre l'intérêt public. Cet infime personnage a une redoutable histoire. Qu'il ne nous oblige pas à la sortir, qu'il disparaisse, comme vient de disparaître celui qui l'employait et celui qui nous l'envoyait. Et que ceci nous serve de leçon. Plus de Bessières et plus de Lebouc rue des Chaussées. C'est un tout nouveau programme auquel nous tendrons la main. Signé la direction. Le jeune homme enchifrené, qui était aussi fort triste, revint au bout d'une heure. Il n'était plus enchifrené, cela paraissait impossible, mais il était encore plus triste. Il demanda un grog et rendit les clés à Madame Muche. Enfin, il fut servi. Et que Madame Muche fut éloignée, le bonhomme aux lunettes s'approcha de lui et lui glissant son journal sous le nez. « Avez-vous lu cela, monsieur ? Oui, fit le jeune homme triste, j'ai lu cela. Et il repoussa le journal comme pour couper court à toute conversation. Monsieur, permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Lebouc lui-même. J'appartiens à la police depuis de nombreuses années. J'ai toujours été sacrifié, voilà pourquoi l'on m'appelle le bouc émissaire. En cette circonstance, j'ai voulu prendre mes précautions. Je me suis adressé à la presse, mais la presse me sacrifie comme m'a sacrifié la police. Je suis plus émissaire que jamais. Quant à vous, monsieur, vous êtes monsieur Jacques Cotentin, prosecteur à la faculté de médecine de Paris, père de la poupée sanglante. Oh, rassurez-vous, monsieur, je ne veux pas vous causer d'ennui, je ne veux plus causer d'ennui à personne. Seulement, puisque l'occasion s'en présente, je viens vous dire. Tout ce que j'ai écrit dans l'époque est absolument exact. Tous les crimes de Corbillère viennent des deux colombes. La poupée elle-même, j'en ai la preuve, depuis 24 heures, n'y était pour rien. Bénédicte Masson était innocent. La dernière victime des hindous et du marquis est une personne qui vous est chère. Et pendant que, comme un sot, je m'emparais de votre Gabriel, dont j'aurais pu le faire un auxiliaire, on enlevait mademoiselle Christine Norbert, qui était livrée aux vampires. Je vous dis tout sans vous ménager, car c'est la dernière fois que je reparle de ces choses. À vous de profiter de mon dernier bavardage. Pour votre gouverne, je ne pense pas que la poupée soit morte au boulevard Diderot. On en montrerait les restes. Mais ils veulent qu'elle le soit, et c'est tout comme. Agissez donc avec la plus grande prudence, soit de ce côté, soit du côté de mademoiselle Norbert, s'il est temps encore de la sauver. Pour moi, j'abandonne la partie. Ces gens-là sont trop forts. Pour étouffer le scandale, ils ont eu tout le monde avec eux. Vous avez vu la villa? Vous avez visité les deux colombes? Quelle somptueuse mais honnête maison de campagne, n'est-ce pas? Peut-on rêver quelque chose de plus authentiquement bourgeois? On peut venir, les gens riront en pensant aux articles signés XXX. Oh, ils ont pris toutes leurs précautions. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Et quant au marquis, dont je n'ai pas à prononcer le nom, quel honnête homme, victime d'une légende absurde, qui, lorsqu'on le représentait président aux orgies des deux colombes, pleurait sa première épouse, à laquelle il vient de faire élever un tombeau magnifique dans la crypte de ses aïeux, tombeau que l'on doit inaugurer après-demain, si je ne m'abuse. « Monsieur le bouc, fit le jeune homme, qui était devenu tout à coup moins triste, mais plus sombre. Monsieur le bouc, que diriez-vous si je faisais avouer publiquement à cet infâme marquis tous ses crimes? Si je le forçais à le dire où il cache Christine Norbert? Si je faisais en un mot la vérité si éclatante que nulle puissance au monde ne pourrait cette fois l'étouffer? Monsieur, je vous dirai que vous avez accompli un miracle plus grand que celui de vous avez fait naître la poupée sanglante. Eh bien, monsieur, suivez-moi. Où allons-nous? À Coulteret. Chapitre 23. Je sens fondre sur moi de lourdes épouvantes. Je sens fondre sur moi de lourdes épouvantes et de noirs bataillons de fantômes épars, Baudelaire. « Vous descendrez à l'hôtel de la Grotte aux Fées, » avait dit Jacques Cotentin à M. Lebouc, en le quittant à Tours. « Ne vous occupez pas de moi. Je ne dois pas me montrer. Si le marquis m'apercevait ou apprenait seulement que je suis dans la région, il croirait aussitôt que je viens lui réclamer Christine ou me livrer sur lui à quelque voie de fait désespérée, et il disparaîtrait. » Monsieur Lebouc arriva à Courteret vers les 7 heures du soir. La cérémonie funèbre a été fixée au lendemain matin. L'auberge du père Achard était bondée. Tout le pays, encore une fois, était en rumeur. L'empouse n'avait pas une bonne presse. Les derniers bruits de la capitale avaient pénétré jusqu'à Coulteret. On avait même distribué des journaux où le marquis était directement visé. Les histoires des trangleurs et des vampires de l'Inde avaient impressionné les plus paisibles. On se rappelait qu'il était justement venu à Coulteret avec des domestiques bien singuliers. Cette fois, il avait débarqué seul avec un nouveau valet de chambre. Il s'était privé des services de Sangor et de Sing Sing, où il avait bien fait. Cependant, le maire et le curé étaient toujours pour lui, et le docteur Morisset ne faisait que hausser les épaules quand on lui rapportait les propos qui couraient dans le pays. Le centre de tout ce mouvement était l'établissement du père Achard. Ils étaient là, trois, Achard, Verdeil et Bridaille, qui n'en démordaient pas de ce qu'ils avaient vu et entendu, et qui le répétaient inlassablement. On venait de loin pour écouter leur histoire, et l'on vidait force pillot. L'épicier Nicole et Tamisier, le marchand de vin en gros, regrettaient beaucoup de ne pas avoir été là lorsque le fantôme avait parlé, mais ils n'avaient pas oublié, comme l'on pense bien, la scène où la femme Gérard avait poussé un si grand cri qui les avait fait accourir pendant que la marquise regagnait le cimetière. Or, le soir où nous sommes, la femme Gérard, qui s'appelait maintenant Madame Drouin, depuis qu'elle avait épousé le Solonio, était arrivée avec son nouvel époux à Coulteret, et tous deux étaient descendus chez le père Achard à la grotte aux Fées. C'est vous dire si la conversation était abondante dans la grande salle commune de l'auberge. Drouin avait toujours son front taciturne. Le mariage ne l'avait pas beaucoup changé. C'était toujours le même rustique avec ses cheveux de crin, ses membres trapus, ses épaules tassées. Mais l'ancien sacristain semblait cacher sous cette enveloppe rugueuse une âme de plus en plus candide, révélée par son regard d'enfant de cœur, ses yeux bleus de mari. Au fond, on ne savait que penser de lui et il n'en savait peut-être rien lui-même. Il affectait une grande prudence, hochait simplement la tête aux propos les plus subversifs. Chose curieuse, sa femme semblait se gausser un peu de lui, se plaisait à le taquiner. « Pourquoi que t'es comme ça, Drouin ? T'as bien le droit de dire aussi ce que tu penses ?» Et se tournant vers les autres, elle ajoutait « Allez, il en a vu lors de la première nuit !» Et il finit par dire « Adolphine, fiche-moi la paix !» Adolphine, elle, prenait sa revanche. Elle n'avait pas oublié comment elle avait été chassée par l'empouse au regard de tout le village au moment des obsèques. Ah, elle ne ménageait pas le marquis, et elle incitait Bridaille, Verdeil et Achard à répéter leur histoire aux nouveaux arrivants. Les bols de vin chaud, le punch, chauffaient le cœur et les cervelles. Bridaille, le forgeron, tapait sur la table comme sur une enclume. Nous sommes pas des enfants. Verdeil, qui est toute la journée avec ses mécaniques, et pas un type à se frapper d'une chose qui n'existerait pas. Il s'agit plus là de l'enchanteur hors fond et des contes de vieilles, une soirée de Noël. Oh. La main dans ma gorge, fort je dirais, elle nous a parlé, elle nous a demandé le chemin de son tombeau. Comme il prononçait ces mots, la porte de la salle commune fut poussée et un homme se présenta dont la seule apparition commanda instantanément le silence. Monsieur Lebouc, dans son coin, eut la sensation qu'il se trouvait en présence du marquis. Il ne se trompait pas. Il n'avait pas l'air content, le marquis. Dans sa figure de brique, ses yeux brûlaient d'une flamme mauvaise. Jamais il n'avait paru plus près de l'apoplexie. Sa main droite maniait un fouet à chien dont la grosse lanière cinglait fébrilement ses jeans. « Bonsoir, vous autres » grogna-t-il en s'asseyant près de la cheminée. « Je suis venu en passant écouter les idioties de Bridaille. Paraît que je tombe bien ? Sûr ? Fit Bridaille sans se démonter. Mais je suis pas le seul idiot ici. Demandez à Achard, à Verneuil, à Tabizier, à Nicole, sans compter Drouine et sa femme Adolphine. Nous sommes une belle collection, allez. Ce qui me console, voyez-vous, monsieur le marquis, c'est que vous êtes le seul à être resté intelligent avec des histoires pareilles. Tiens, dit le marquis, te voilà donc revenu, Drouine. Oui, monsieur le marquis, répondit l'autre en rougissant comme une première communiante. J'ai pas voulu laisser passer une cérémonie pareille sans venir vous présenter mes devoirs et mes condoléances. Je vois que tout le monde sera là, constata le marquis en continuant de jouer avec son fouet à chien. J'en suis content pour la mémoire de la marquise. J'espère qu'après cela, les imbéciles nous ficherons la paix à elle et à moi. Alors Verneuil, qui tenait le garage au coin du pont, se leva et vint se planter devant le marquis. « Je vous défends de me traiter d'imbécile !» déclara-t-il froidement. « Ha ha ! Ricana Georges-Marie-Vincent. Voici monsieur l'esprit fort, monsieur qui ne va jamais à la messe. » Monsieur qui ne croit ni à Dieu ni à diable. Justement, dit Verneuil. Mais monsieur croit aux fantômes. Justement, répéta Verneuil. Je ne crois qu'à ce que je vois et à ce que j'entends. Eh bien, je l'ai vue et je l'ai entendue, la femme de l'empouse. À ce dernier mot, le marquis se leva en jurant. Il était devenu tout pâle. Et l'on put croire qu'il allait cravacher l'autre. Il se retint. Vous êtes tous des cuistres, indignés et indignes du bon maître que j'ai toujours été pour vous tous. Vous êtes plus arriérés que les derniers des sauvages. Vous m'avez vu autour de la marquise. Pendant mon absence et pour calmer vos cerveaux d'abrutis, on a ouvert son cercueil et on vous l'a montré. Depuis ce temps-là, on n'est pas descendu dans la crypte. Demain matin, vous la verrez et on scellera définitivement sur la malheureuse que je n'ai pas cessé de pleurer, la pierre du repos éternel. Et vous voulez parler d'empouse, tas de canailles. Tous se furent debout dans un tumulte qui n'annonçait rien de bon. Bridaille avait déjà bousculé la table qui était devant lui, et arrivait sur le marquis dans un grand bruit de vaisselle et de verre brisés. Achard n'eut que le temps de s'interposer. « Qu'est-ce que ça prouve ? » dit-il au marquis. « Quoi, qu'est-ce que ça prouve ? » ?»« Oui, qu'est-ce que ça prouve que vous nous la montriez demain matin ? C'est la nuit qu'elle sort de son tombeau sur le coup de minuit, comme tous les empouses. Faites pas le malin, vous en savez plus long que nous là-dessus. » Le marquis lui jeta un regard sinistre. « Eh bien, je remets la cérémonie demain à minuit. Mais tu comptes, Achard ?»« Oui, » fit Achard. « Eh, nous sommes au XXe siècle !» lança le marquis, faisant claquer son fouet. Il partit en rugissant. Il était déjà loin sur la route, qu'il l'entendait encore jurant, sacrant, insultant la terre, Dieu et les hommes. Quand on sut le lendemain matin à Coulterey aux environs que la cérémonie était renvoyée à minuit à la suite de la scène de l'auberge, la fièvre gagna le pays. Quelle journée on passa et dans quelles attentes! Vers le soir, le marquis s'était enfermé dans le château avec le curé et le maire qui le consolaient de leur mieux. Mais il était dans un état d'exaltation peu ordinaire. Ce qu'il sortit au premier magistrat de la cité sur le crétinisme de ses administrés abasourdit si bien le bonhomme que celui-ci jura qu'il ne se représenterait plus aux prochaines élections. Lui aussi lâcherait ce pays absurde, l'abandonnerait à sa honteuse superstition. À ce mot de superstition, le marquis, calmé un peu du côté du maire, se retourna sur le curé. Et celui-ci, à son tour, fut bien servi. S'il y avait moins d'histoires de saints, de miracles, de tombes entr'ouvertes, de résurrection de fantômes et autres niaiseries, tout au long des légendes sacrées, on ne verrait pas tout un peuple dans une contrée de bons vivants où il y a de la terre et du soleil pour tout le monde, à courir pour savoir si une empouse était toujours dans sa tombe ou allait en sortir. Lui, le marquis, ne croyait à rien, absolument à rien. Et il le dit au curé, qui se signa et le pria de se taire s'il ne voulait pas être damné. Alors, Georges-Marie Vincent éclata d'un rire sardonique. « Damné ? Et par qui ?»« Par le bon Dieu ?» répondit le saint homme. Le marquis vit que s'il continuait, le curé allait partir et qu'il emmènerait sûrement le maire. Il ne répliqua pas. Il ne voulait pas rester tout seul, non parce qu'il avait peur, il n'avait peur de rien. Mais enfin, le maire et le curé représentaient encore l'élément intelligent du pays. Et si cet élément-là lui faisait défaut, qu'est-ce qui lui resterait? Il fallait penser aussi qu'avec ces bêtes de paysans, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il fit venir des bouteilles, mais le curé ne touchait à rien. Le marquis en vida trois à lui tout seul. Et sur les 11 heures du soir, il commença de s'attendrir fortement au souvenir de la marquise qu'il avait tant aimée. « Qu'elle me pardonne si je lui ai jamais fait de la peine et qu'elle repose en paix dans son nouveau tombeau. » Sur quoi il se mit à inventer l'architecture et les motifs sculpturaux. Le tombeau coûtait cher, mais le marquis avait toujours pensé qu'il n'y avait rien de trop beau pour Bessie Anne-Élisabeth. Un grand bruit sourd se faisait entendre autour du château. Le cimetière, la baille était déjà plein de monde, malgré le froid qui était assez vif. La nuit, du reste, était belle, et une grande lune pâle glissait derrière les nuages argentés. Ils partirent tous trois pour la chapelle. On les reconnut et on leur fit place. Tout murmure cessa sur le passage du marquis. On attendait, et plus d'un frissonna à cause de cette attente. Tout était déjà prêt pour la cérémonie. Le vicaire avait tout fait préparer, mais on ouvrit la crypte qu'au dernier moment, car on s'écrasait aux portes. Les femmes surtout paraissaient enragées, tant elles avaient hâte de voir. Il y en avait là qui stationnaient depuis des heures. Monsieur Lebouc fut l'un des premiers à se glisser dans la crypte, mais il était moulu. Il n'avait pas aperçu Jacques. Certains groupes qui avaient trompé les heures d'attente en vidant les bouteilles qu'ils avaient apportées étaient joyeux et s'essayaient à des plaisanteries qui n'avaient guère d'écho. « Taisez-vous, païens !» leur criait-on. Mais dans la crypte, c'était le silence. On avait dressé au fond un petit autel sur le tombeau même de François III, dit Bras de Fer, mort en Terre Sainte. C'est là que l'office fut célébré par le curé. On s'écrasait sur les marches qui faisaient communiquer la crypte avec le chœur et aussi dans l'étroit escalier de la petite tour qui montait directement au cimetière. Le nouveau tombeau, dans ce style où la Renaissance commence à effacer le gothique ancien flamboyant sous la fioriture de ses lignes et l'abondance du dessin, était du reste fort admiré à cause de 4 figures d'anges très mignardes qui en garnissaient les coins. Il était là, béant, attendant qu'on y apportât le cercueil de Bessie Anne-Élisabeth, toujours scellé sous la pierre du tombeau de Louis-Jean Chrysostome. Quand le rite fut accompli et que le moment fut venu où les ouvriers descellèrent la pierre tombale et la firent glisser, toutes les haleines furent suspendues. À ce moment, les 12 coups de minuit sonnèrent dans la tour et la pierre fut entièrement poussée. Alors un long gémissement lugubre passa dans l'assistance, puis il y eut des cris, des « Marie, Jésus !» La tombe avait bien conservé le cercueil qui lui avait été confié, mais le cercueil ouvert était vide. L'empouse que chacun avait pu voir lors de la dernière cérémonie étendue sur sa couche funèbre, était sorti de son tombeau. Tous les regards se tournèrent alors vers le marquis, tandis que les femmes tombaient à genoux et une rumeur des plus menaçantes commença à envelopper. Il s'était redressé, hagard, inquiet, mais redoutable encore, quand soudain un autre bruit qui, celui-ci venait du cimetière, annonça qu'il se passait aux abords de ce dernier quelque chose d'extraordinaire. Et puis il y eut des cris affreux dans l'escalier de la tour. Ceux qui étaient là s'enfuirent comme une nichée de hiboux, quelques-uns vinrent rouler au bas des marches, jusque dans la crypte, et derrière eux, derrière leur geste d'épouvante, une longue forme blanche apparut. Toute droite, comme si elle eût glissé sur la terre et telle qu'elle s'était déjà montrée dans les nuits hantées de Coulteret, elle venait. Bessie Anne Elisabeth, marquise de Coulteret, née Clavendish, elle venait vers le marquis qui, les bras en croix, la figure exsangue, la bouche ouverte, mais incapable de laisser passer aucun son, reculait. Et quand il ne put plus reculer, il tomba à genoux tout d'une pièce. Le fantôme avait tendu le bras. Bessie, d'une voix d'outre-tombe, fit entendre « Je t'accuse !» Mais le marquis s'était écroulé sur les dalles, sa tête avait sonné affreusement sur la pierre du tombeau. Il poussa un soupir effrayant, une sorte de râle, auquel répondit un gémissement plus effrayant encore. Un homme se ruait vers cet agonisant et lui soulevait la tête. « Avant de mourir, dis-moi ce que tu as fait de Christine. » Hélas, Jacques Cotentin n'avait plus dans les bras qu'un cadavre, auprès duquel roula presque aussitôt le spectre définitivement épuisé de Bessie. Ils étaient morts tous deux. Le docteur Morisset, qui avait suivi Jacques de près, le constata et déclara que cette fois, c'était bien fini. Mais de telles paroles n'étaient pas pour satisfaire une foule superstitieuse dont les esprits venaient d'être par cette scène tragique si fortement exaltés. Comme le maire et le curé mettaient l'avis que l'on étendit tout de suite le marquis et la marquise, chacun dans son tombeau, il se passa brusquement un de ces événements qui ne peuvent survenir qu'à de certains moments où l'âme des foules est emportée comme malgré elle dans un fatal tourbillon et lui fait accomplir des gestes définitifs dont personne en particulier ne saurait être responsable. Il ne faut pas oublier que pour la grande majorité, c'était bien l'empouse sortant de son tombeau qui était venue retrouver son bourreau en deçà des limites de la mort. Pour cela, il fallait délivrer le pays de ce cauchemar qui durait depuis des mois. Il y avait trop de fantômes dans les nuits de Coulteret. Que dit la tradition contre les vampires? Qu'ordonne-t-elle les brûler? Sans même que l'on se fût concerté, sans qu'un mot eût été prononcé, les gestes nécessaires étaient faits. Dans la nuit d'argent, des ombres noires dressaient au milieu de la baille un énorme bûcher. Tout ce que l'on avait trouvé de bois à brûler dans les environs s'accumulait là comme par enchantement. Des bidons d'essence que Verneuil apportait lui-même furent vidés sur le bois desséché par l'hiver. Les deux corps furent placés là-dessus, côte à côte. Le maire et le curé s'étaient enfuis. Bientôt une flamme s'éleva gigantesque, faisant surgir le vieux château comme du fond de l'histoire de France, un jour de massacre et d'incendie. Longtemps, cette fournaise tordit ses écharpes écarlates au-dessus de la prée, puis peu à peu, elle calma sa fureur dévoratrice, ne sembla plus être bientôt qu'une lueur joyeuse et amie, comme un feu de la Saint-Jean, souvenir apaisé de la cruelle flamme druidique. Dernier chapitre 24. Alas pour Gabriel. Jacques Cotentin et M. Lebouc revinrent ensemble jusqu'à Tours. Jacques paraissait affreusement accablé. Quant à M. Lebouc, il s'était fait depuis trop longtemps une âme de philosophe pour ne pouvoir retrouver sa sérénité indifférente après ce nouveau coup. « Nous n'avons pas une chance, » fit-il simplement. « Certes, » soupira Jacques, « si le coup n'avait pas été si rude, si le marquis avait seulement vécu encore quelques minutes, nous obtenions de lui tout ce que nous voulions. L'épouvante ne nous livrait. La mort nous l'a volé au moment où il ouvrait la bouche. Cet homme qui ne croyait à rien voyait soudain le fantôme de sa femme, pauvre Bessie. Elle a fini de souffrir maintenant, elle est morte pour de bon. Rien ne la tourmentera plus. Sur une question de M. Lebouc, le prosecteur expliqua comment Bessie Anne-Elisabeth, que l'on avait cru morte une première fois, n'avait été frappée alors que d'une certaine crise de catalepsie dans laquelle l'autosuggestion entrait pour beaucoup. Nombreux sont les cas de gens qui se croient morts, surtout parmi ceux dont le cerveau trop faible a trop agité la question de l'au-delà. Bessie se croyait morte, tombait en catalepsie pour se réveiller la nuit, alors qu'elle savait devoir surgir de son tombeau comme toute empousie et contrainte par un inéluctable destin. Jacques avait suivi, lors de la première nuit, après les obsèques, cette forme fantomatique, et il avait assisté au cas qu'il connaissait bien. Il l'avait vue regagner la crypte, se replacer d'elle-même sur sa couche funèbre. De son côté, elle l'avait aperçu, l'avait regardé avec un triste sourire, et lui adressant un signe amical, lui avait dit de sa voix d'ombre « À demain minuit !» Et la catalepsie l'avait immédiatement reprise tout entière. Comment était-elle sortie toute seule de ce cercueil? Voilà ce qu'il se demanda, et il fut conduit à cette idée que Sangor était venu pour accomplir son horrible fils, et qu'elle avait dû se réveiller à ce moment-là, au moment où Sangor ouvrait le cercueil. Sangor s'était enfui de la crypte. Cela n'expliquait point la facilité avec laquelle Drouin avait pu, quelques heures plus tard, se débarrasser de l'hindou, d'ailleurs chargé de présents. Jacques s'était bien gardé de parler à Christine de ce qui s'était réellement passé dans la crypte. Sa fiancée avait déjà l'esprit trop bouleversé pour qu'on pût tenter, dans l'instant même, de lui expliquer scientifiquement un phénomène qu'il était plus facile de nier. Alors il nia. Mais il s'agissait de sauver la malheureuse Bessie. Pour essayer de la guérir, il fallait d'abord la délivrer du marquis, source de tous ses maux. En conséquence, il décida de la montrer morte aux yeux de tous dans son tombeau. Sur elle, on scella publiquement la pierre. Dans la nuit suivante, il venait la délivrer à l'heure où elle sortait de sa crise, et aidé du docteur Morisset, qu'il avait mis tout de suite dans la confidence, et de Drouine, ainsi que de la femme Gérard, auxquels les deux médecins finirent par faire entendre raison, il transportait la malheureuse dans une auto qui la conduisit dans un coin désert de la Sologne, où Drouine avait une petite propriété. C'est là qu'elle était restée depuis. Le docteur Morisset allait la voir toutes les semaines. Tantôt il nourrissait quelque espoir, tantôt il désespérait d'arriver à un résultat. On s'y était pris trop tard. L'idée de l'empouse devait finir par triompher. Elle s'échappait encore la nuit pour aller retrouver son tombeau. Une fois même, elle avait fait des lieux dans un pays impossible pour atteindre Coulteret. C'était cette nuit-là qu'elle avait parlé aux gens de l'auberge. Drouine avait eu toutes les peines du monde à la rejoindre et à la ramener. C'était lui, le fantôme, qu'on avait vu poursuivre l'empouse. Elle était définitivement folle. Vous comprendrez maintenant, acheva Jacques Cotentin, comment l'idée de me servir de ce spectre vivant me vint pour obtenir les aveux du marquis. Mais oui, fit Monsieur le Bouc, c'était parfaitement imaginé. Seulement, voyez-vous, Monsieur le Cotentin, dans la vie, faut avoir de la chance, et malheureusement, nous n'avons pas de chance. Voulez-vous que je vous donne un bon conseil maintenant, Monsieur le Prosecteur? Eh bien, faites comme moi. Faites-vous oublier. Adieu, Monsieur Cotentin. Adieu, Monsieur le Bouc. Le meilleur moyen de se faire oublier, se disait le malheureux Jacques en rentrant le soir même à Paris, c'est de disparaître pour toujours. Je sens que si je ne retrouve pas Christine, je n'en ai plus pour longtemps. Rien ne m'intéresse plus ici-bas. Il ne pensait plus à sa poupée que pour la maudire. En pénétrant dans la boutique de la rue du Saint-Sacrement, Jacques fut tout de suite frappé par le désordre qu'il y trouva. C'était dans les coins un amoncellement de rouages, de ressorts de roues dentées, tout cela tordu, massacré, bon désormais pour la ferraille. Il reconnut des bouts des fameuses roues carrées qui avaient tant intrigué le quartier et les restes du fameux système à mouvement perpétuel, que les habitants de l'île Saint-Louis ne se rappelaient point avoir jamais vu remonter. Et au milieu de toutes ces ruines, le vieux Norbert, assis à son établi, s'aloupa l'arcade sourcière calme, avec des gestes là et précis, raccommodait une grosse montre de camionneur. Il n'eût paru point autrement étonné de voir son neveu. Il lui dit « Ah, oh, c'est toi? Tiens, il y a depuis quelques jours ici une dépêche pour toi. Je savais où te la faire parvenir. Je l'ai lue, ça m'a l'air assez pressé. » Jacques se jeta sur la dépêche, elle lui était adressée. Elle venait de Peyrakava. Elle était signée Christine. Il lut « Arrive vite, nous avons bien besoin de toi tous les deux. » Il voulut parler au vieux, mais l'autre lui ferma la bouche. « Oh, range-toi, tout cela ne me regarde plus. » Le jour même, il partait pour le midi. Le lendemain, il était à Peyrakava vers les 4 heures de l'après-midi. En descendant de son car, il aperçut une jeune femme en deuil, qui avait les yeux rouges. C'était Christine. « Tu arrives trop tard, » fit-elle. « Il est mort. » Il lui prit le bras, il la soutenait. Ainsi firent-ils le chemin qui conduisait au petit pavillon de la forêt de Maïris, appuyés l'un contre l'autre dans une incommensurable détresse. Christine pleurant Gabriel et Jacques pleurant Christine que l'autre semblait lui avoir prise pour toujours, même maintenant qu'il était détruit. Pardonne-moi, Jacques, mais on ne saura jamais ce qu'a été Gabriel, ni ce qu'il aurait pu être s'il avait voulu vivre. Mais il ne voulait plus. Je te raconterai un jour en détail comment j'étais tombé entre les mains du marquis et de ses amis, comment je me voyais perdu à jamais, et comment Gabriel a surgi à la minute suprême de ma servitude pour m'arracher aux bras de ses vampires. Tous s'étaient rués sur lui, mais à lui seul il était plus fort que tous. Ils le criblèrent de plaies, ils déchargèrent sur lui leurs armes. Tout fut vain, on ne tut pas la tempête. Il passa et m'emporta, et il me ramena ici. Mais pour lui, c'était la fin. Avant de venir me sauver, il avait été à demi écrasé par un formidable accident. Tout son système nerveux avait été furieusement atteint. Sa circulation se faisait avec difficulté et il ne voulait pas que je le soigne. Il avait jeté ses petites clés dans un précipice avant qu'il ne s'y jetât lui-même. Il voulait mourir, mourir pour toujours. Tu sauras pourquoi. C'est alors que je télégraphiais, malgré la défense qu'il m'en avait faite et sa surveillance de tous les instants. Je n'ai plus que quelques heures à vivre, me disait-il, que personne ne vienne les troubler. Enfin, un soir où ses gestes s'étaient faits plus lents, plus difficiles, il me dit adieu et me fit jurer de ne pas le suivre. Mon espérance était qu'il s'arrêterait peut-être tout à fait et qu'alors, malgré lui, je pourrais le soigner. Mais il avait réuni ses dernières forces, il usait son dernier ressort et il me conduisit loin dans les neiges sur le chemin de Plancaval. Tout à coup, il se dressa sur une cime, sembla prendre à témoin le ciel et la terre, leva les bras et se jeta dans le précipice. Je courus comme une folle. Alors je fis un grand détour et j'atteignis, au prix de 1000 dangers, le fond du précipice. Et je découvris ces pauvres restes brisés. Je les ai apportés. Tu les verras, Jacques. Ton enfant a été sublime. C'est le plus grand malheur du monde. Jacques se taisait. Il ne lui répondait rien. Il pleurait. Il pleurait maintenant sur lui-même. Christine reprit. Ici, on a cru un accident. J'ai du reste tout fait pour cela. On a cherché le cadavre, mais la fonte des neiges est arrivée et on n'a rien retrouvé. Ce qui a paru tout naturel. On plaint la sœur d'avoir perdu un tel frère. Le curé de Lucéram est venu dire une messe hier à notre petite chapelle pour le repos de son âme. Nul ne doute qu'il est au fond de mon armoire. Ils étaient arrivés au chalet. Il y avait un bon feu de bois dans la cheminée. « Tiens, réchauffe-toi, tu dois être gelé, » lui dit Christine. « Je vais t'apporter un bol de bouillon bien chaud, et aussi tous ses papiers, tout ce qu'il m'écrivait. Tu comprendras pourquoi il a voulu mourir. Quelle âme et combien il a souffert !» Elle revint avec son bol de bouillon et dans un coffret tous les précieux papiers. « Lis, » fit-elle. « Je viendrai tout à l'heure. » Et elle partit en sanglotant. Quant à lui, il sortit de la poche intérieure de son vêtement un gros cahier sur lequel il avait noté au jour le jour tous ses travaux et où l'on pouvait trouver précisé avec le plus grand soin toutes les conditions de la sublime mécanique. Il joignit à ce cahier les papiers que lui avait apportés Christine et, sans les lire, il jeta le tout au feu. Quand Christine rentra, il n'y avait plus guère de ce document merveilleux que les cendres et quelques bouts de feuilles roussies. Christine comprit ce qui venait de se passer. Elle jeta un grand cri et se précipita sur le foyer. Nous donnons ici quelques lignes rares qu'elle put sauver de ce désastre. Oui, je suis un pur esprit et je m'en fais gloire. Et ce sera ta gloire à jamais, ô Christine, d'avoir aimé une pensée mieux peut-être que tu n'eusses aimé mon cœur, même s'il avait habité lors de ma première étape un corps idéal, même si Bénédicte Masson avait été beau. Vois-tu, Christine, ce que nous admirons chez l'homme, Emerson l'a dit, c'est la forme de l'informe, la concentration de l'immensité, la demeure de la raison, la retraite de la mémoire. Vois le jeu des pensées, qu'elles agissent les souples créatures. Les jeux du cœur appartiennent encore à la terre, mais la pensée allée, que n'arrondit aucun point terrestre, c'est le divin. Ce que nous venons de dire, c'est le chant du triomphe, mais voici venir la clameur du désespoir, qui expliquait tout. J'ai tendu les bras, j'ai pressé sur mon sein glacé ton corps et ton visage convulsé, mais je n'ai pas senti la tiédeur de ton sein. Oh, ta chaleur, ton parfum béni, qui me les rendra jamais? Christine, Christine Emerson est un niais. L'orgueil de penser ne consolera jamais de l'amour tel que l'a voulu la nature créatrice, au fond duquel tout se rejoint. Ah, Christine, au début j'ai promené à tes côtés ma superbe, je me vantais d'être un pur esprit et j'étalais audacieusement mon bonheur, mais je me trompais moi-même. Je n'étais heureux que parce que je n'étais pas encore tout à fait retiré de la terre. Tel un opéré à qui l'on vient d'ôter le bras et qui croit toujours sentir sa main blessée, le souvenir que j'avais de mes sens les remplaçait. Je me rappelais ton parfum, et il me suffisait de te voir pour te sentir. Ainsi, je me promenais dans la nature sans en être encore tout à fait isolé. Et puis, peu à peu, cette imagination s'effaça. Ces pseudo-sensations disparurent, je fus réduit à ma seule mécanique qui promenait ma pensée. J'étais vraiment un pur esprit. Ah, misère! Cette vie ne saurait durer. Ton Jacques m'a imposé le plus farouche des supplices. Enfin, ces dernières lignes. Non. Il n'y a pas de plus grande douleur au monde que d'être un pur esprit. La religion chrétienne a compris cela, qui a mis au premier rang de ses dogmes la résurrection de la chair. Oui, Christine, voilà le paradis. Renaître en chair et en os pour cueillir ton baiser éphémère dans lequel tu aurais mis l'éternité. Mais l'éternité, sans ce baiser-là, je n'en veux plus. Adieu, mon adoré. Deux ans plus tard, on ne parlait de la poupée sanglante, quand on en parlait encore, et de l'épidémie de la piqûre, et de la pseudo-résurrection de Bénédicte Masson, et des tugs et de leurs petits trocards. que comme d'un cauchemar, qui avait secoué Paris à une époque où les esprits avaient perdu tout équilibre, maladie à laquelle la police d'État n'avait pas été étrangère. Jacques et Christine étaient mariés. Le prosecteur s'était établi à Peyrakava, comme le plus humble des médecins de campagne, sous le nom de sa mère, de Baigneville. Madame de Baigneville eut 3 beaux enfants, et aucun d'eux ne s'appelait Gabriel. Mais Gabriel vivait toujours au fond du cœur de Christine et attendait au fond de son armoire. Elle n'avait pas voulu s'en séparer. Jacques lui avait laissé les restes de la géniale mécanique et le fameux cerveau de Bénédicte Masson était conservé à part dans un bocal ad hoc. Madame de Baigneville était douce et bonne et la plus simple des femmes. Sa seule distraction, en dehors de ses enfants, était quand elle était seule, d'ouvrir son armoire secrète et de travailler à la réfection de Gabriel. Elle était arrivée à le remettre en état d'une façon fort appréciable. La circulation ne laissait plus rien à désirer. Le sérum fonctionnait bien. Et un jour que Jacques était parti à la chasse avec des amis et le lieutenant des Alpins qui commandait le poste de Plancaval, elle alla prendre le bocal où trempait dans le sérum nourricier le cerveau de celui qu'elle appelait toujours au fond de son cœur « Mon Gabriel ». Quelle émotion quand elle l'ouvrit! Hélas, le bocal était vide. Jacques Cotentin avait pris ses précautions.